Chapitre 59. Trinité. C'était bien fait. Maintenant, ils ne seront pas tentés de retourner. J'apprends beaucoup de choses, mais je suis encore attristé quand même que ma vieille vie s'échappe. Cela aussi passera. Moi aussi, je suis retourné sur Terre pour voir ceux que j'aimais jadis. Maintenant, je sais qu'il y a des choses plus grandes que l'amour. Quelles sont-elles ? La compassion d'abord, la justice, la vérité. Il y en a d'autres. Cela ne m'est pas difficile à accepter. J'étais un très vieil homme pour un individu de mon espèce. Les passions de ma jeunesse s'étaient éteintes depuis longtemps. Que va-t-il arriver au véritable Heywood Floyd ? Vous êtes tous deux également véritables. Mais il mourra bientôt sans jamais savoir qu'il est devenu immortel. Un paradoxe. Mais je comprends. Si cette émotion survit, peut-être serai-je un jour reconnaissant. Dois-je vous remercier ou le monolithe ? Le David Bowman que j'ai connu il y a une vie entière ne possédait pas ces pouvoirs. Non, en effet. Beaucoup de choses se sont passées à cette époque. Al et moi avons beaucoup appris. Al, il est ici?
Je le suis, professeur. Je ne pensais pas que nous nous retrouverions, surtout pas de cette façon. Être votre écho, c'était un problème intéressant.
Mon écho? Ah oui, je vois. Pourquoi avez-vous fait ça?
Quand nous avons reçu votre message, Al et moi avons su que vous pourriez nous aider ici.
Vous aider ? Vous ?
Oui, bien que cela vous paraisse étrange. Vous avez beaucoup de science et d'expérience qui nous manquent. Appelons cela de la sagesse.
Merci. Était-il sage de ma part d'apparaître à mon petit-fils ?
Non, cela a causé bien des embarras. Mais c'était utile. Ces choses-là doivent être sous-pesées.
Vous dites que vous aviez besoin de mon aide. Pourquoi ?
Malgré tout ce que nous avons appris, il y a encore beaucoup de choses qui nous échappent. Al a fait le tableau des systèmes internes du monolithe et nous pouvons contrôler quelques-uns des plus simples. C'est un outil, un instrument qui sert à diverses intentions. Sa principale fonction semble être de catalyser l'intelligence.
Oui, nous le soupçonnions. Mais il n'y avait pas de preuves.
Il y en a une, maintenant que nous pouvons puiser dans ses mémoires, quelques-unes du moins. En Afrique, il y a 4 millions d'années, il a donné à une tribu de singes mourant de faim l'élan qui a abouti à l'espèce humaine. Maintenant, il répète cette expérience ici, mais à un prix effroyable. Quand Jupiter a été converti en un soleil, pour que ce monde puisse réaliser son potentiel, une autre biosphère a été détruite. Permettez-moi de vous la montrer telle que je l'ai vue jadis.
Alors qu'il tombait dans le cœur rugissant du grand point rouge, avec la foudre de ses orages vastes comme des continents tournant autour de lui, il savait pourquoi cela avait duré des siècles. Bien que formé de gaz bien moins substantiels que ceux qui avaient créé les ouragans de la Terre. Le hurlement strident du vent d'hydrogène s'atténuait alors qu'il sombrait dans de plus calmes profondeurs, et une nappe de flocons de neige cireux, qui s'amoncelait déjà en impalpables montagnes de mousse d'hydrocarbures, descendait des hauteurs. Il faisait déjà assez chaud pour qu'existe de l'eau liquide, mais il n'y avait là aucun océan. Cet environnement purement gazeux était trop ténu pour cela. Il plongea à travers des couches et des couches de nuages, jusqu'à pénétrer dans une région d'une telle clarté que la vue humaine elle-même se serait étendue à plus d'un millier de kilomètres à la ronde. Ce n'était qu'une turbulence mineure dans le vaste tourbillon du Grand Point Rouge, et elle contenait un secret que l'homme avait deviné depuis longtemps sans jamais pouvoir le vérifier. Autour des contreforts des montagnes de mousse à la dérive, il y avait des myriades de petits nuages aux contours bien définis, tous à peu près de la même taille, et portant les mêmes marbrures rouges et brunes. Ils n'étaient petits qu'en comparaison avec l'échelle inhumaine de ce qui les environnait. Le moins important aurait couvert une ville moyenne. Ils étaient manifestement vivants car ils se déplaçaient de façon lente et délibérée le long des flancs des montagnes aériennes, en paissant sur leurs pentes comme des moutons colossaux. Et ils causaient entre eux sur la fréquence métrique. Leur voix radiodiffusée était faible, mais nette dans les craquements et les grondements de Jupiter. Sac à vent vivant, ils flottaient dans l'étroite zone entre les hauteurs glaciales et des profondeurs brûlantes. Étroite, oui, mais un domaine infiniment plus grand que toute la biosphère de la Terre. Ils n'étaient pas seuls. D'autres créatures allaient et venaient rapidement parmi eux, si petites qu'elles auraient pu facilement passer inaperçues. Certaines présentaient une ressemblance quasi surnaturelle avec des avions terrestres, et elles étaient à peu près de la même taille. Mais elles aussi étaient vivantes. Des prédateurs, peut-être, ou des parasites. Peut-être même des bergers. Et il y avait des torpilles à réaction semblables aux sèches des océans terrestres qui chassaient et dévoraient les grands sacs à vent. Mais les ballons n'étaient pas sans défense. Certains ripostaient avec des éclairs électriques et des tentacules griffus comme des scies à ruban d'un kilomètre. Il y avait même des formes encore plus bizarres, exploitant toutes les possibilités de la géométrie, de singuliers losanges translucides, des tétraèdres, des sphères, des polyèdres, des nœuds de ruban tressés. Gigantesques planctons de l'atmosphère jupitérienne, ils étaient conçus pour flotter comme des fils de la Vierge aux courants ascendants, jusqu'à ce qu'ils aient vécu assez longtemps pour se reproduire. Ils étaient alors emportés dans les profondeurs pour y être carbonisés et recyclés en une nouvelle génération. Ils fouillaient un monde plus de 100 fois plus grand que la Terre, et s'il y trouvait beaucoup de merveilles, il n'y avait là rien qui présentât un soupçon d'intelligence. À la radio, les voix des grands ballons ne contenaient que de simples messages d'avertissement ou de peur. Même les chasseurs, dont on pouvait attendre qu'ils eussent atteint un plus haut niveau d'organisation, étaient comme les requins dans les océans de la Terre, des automates sans volonté. Et en dépit de sa stupéfiante immensité et de sa nouveauté, la biosphère de Jupiter était un monde fragile, un lieu de brume et d'embrun, de délicats fils d'argent et de nappes fines comme du papier tissé par la chute de neige continuelle de pétrochimie née dans la haute atmosphère. Peu de ces fabrications étaient plus substantielles que des bulles de savon. Ces prédateurs les plus terrifiants pouvaient être mis en pièces par les plus faibles des carnivores terrestres.
Et toutes ces merveilles ont été détruites. Pour créer Lucifer.
Oui, les Jupitériens ont été mis dans la balance contre les Européens et n'ont pas fait le poids. Peut-être, dans cet environnement gazeux, n'auraient-ils jamais pu développer une réelle intelligence. Est-ce que cela devait les condamner? Allez, moi, cherchons encore la réponse à cette question, qui est une des raisons pour lesquelles nous avons besoin de votre aide.
Mais comment pouvons-nous nous attaquer, nous? Ô monolithe, le dévoreur de Jupiter.
Il n'est qu'un instrument. Il possède une vaste intelligence, mais pas de conscience. En dépit de tous ses pouvoirs, Al, vous et moi lui sommes supérieurs.
J'ai du mal à le croire. Cela dit, quelque chose a dû créer le monolithe.
Je l'ai rencontré une fois, si on peut dire ainsi, quand Discovery est arrivé sur Jupiter. Il m'a renvoyé dans l'état où je suis à présent, pour servir ses intérêts sur d'autres mondes. Je n'en ai plus eu de nouvelles depuis. Maintenant, nous sommes seuls, du moins pour le moment.
Je trouve cela rassurant. Le monolithe est bien suffisant.
Mais il y a aujourd'hui un problème plus grave. Quelque chose a mal tourné.
Je ne savais pas que je pouvais encore connaître la peur.
Quand le monde Zeus est tombé, il aurait pu détruire totalement ce monde-ci. Son impact était imprévu et même imprévisible. Aucun calcul n'aurait permis d'envisager un tel événement. Il a dévasté d'immenses régions du fond de l'océan européen, exterminé des espèces entières, dont quelques-unes qui nous inspiraient de grands espoirs. Le monolithe lui-même s'est renversé. Il a même pu être endommagé. Des programmes ont peut-être été atteints. Il est certain qu'ils n'ont pas pu parer à toutes les éventualités. Comment l'auraient-ils pu, dans un univers quasi infini, où le hasard peut toujours détruire les plans les mieux ourdis.
C'est vrai. Autant pour les hommes que pour les monolithes.
Nous devons être tous trois les administrateurs de l'imprévu, ainsi que les gardiens de ce monde. Vous avez déjà fait la connaissance des amphibies. Il vous reste à connaître les draineurs de lave à carapace de silicone et les flotteurs qui moissonnent dans la mer. Notre mission est de les aider à réaliser la leur, peut-être ici, peut-être ailleurs.
Et l'humanité ?
J'ai par moments été tenté de me mêler des affaires humaines. Mais l'avertissement donné à l'humanité s'applique aussi à moi.
Nous ne l'avons pas très bien suivi.
Assez bien quand même. En attendant, il y a beaucoup à faire avant que le bref été d'Europe se termine et que revienne le long hiver.
Combien de temps avons-nous ?
Bien peu. À peine 1000 ans. Et nous ne devons pas oublier les Jupitériens.